Résonance. Bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Résonance part sur les routes des régions pour aller à la rencontre de découvertes et à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Comme tout genre littéraire, les formes de la fiction radiophonique ont naturellement évolué sous l'impulsion d'écritures et de compositions nouvelles, avec l'influence de l'image et l'apport des plasticiens, musiciens. La fiction a su régulièrement changer de ton et aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, la radio est l'endroit où l'on découvre de nouveaux auteurs, où l'insolence, la poésie, le rire et l'émotion sont présents dans des formats variés grâce à des auteurs encore inconnus ou prestigieux et servis par les plus grands comédiens ou tous ceux qui veulent s'aventurer aussi dans ce type d'aventure. Alors le public aussi aujourd'hui réclame d'ailleurs de nouveaux contenus, de la parole intelligente, des points de vue différents sur le monde qui nous entoure. Et les jeunes générations s'emparent des outils de création afin de faire entendre leur voix. Et il semble aussi important de laisser de plus en plus de place justement à leur voix sur les ondes publiques et privées. Et finalement, donc, la fiction, le documentaire et la création sonore sont bien aussi l'un des enjeux forts de la radio et de la création de demain. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, Résonance s'est aventurée dans les coulisses de la réalisation de deux fictions radiophoniques, imaginées, portées par des enfants d'un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile de Valence, dépendant de la page de la Drôme, et un projet de fiction radiophonique mis en place par Radio Méga, une radio associative dont la vocation est de promouvoir l'information locale, l'expression et la pratique de la rediffusion, de la radiodiffusion, pardon, pour tous et par tous. Résonance sur Radio B, émission spéciale à l'écoute des fictions radiophoniques du CESAD de La Page à Valence avec Radio Méga, au Train Théâtre de Portes-les-Valences. Alors pour évoquer ces projets de fiction radiophonique, de création d'œuvres sonores, elles associent, comme je disais tout à l'heure, de jeunes enfants porteurs de handicap et trois artistes. Résonance a installé ses micros au Train Théâtre à Portes-les-Valences dans la Drôme. Et je remercie par la même occasion le directeur du Train Théâtre, Luc Sotira, et son équipe pour leur accueil et pour nous avoir permis de réaliser cette nouvelle émission de Résonance. Alors nous allons entrer maintenant dans cette approche de ces fictions et pour nous guider justement dans les coulisses de ces histoires sonores radiophoniques, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités à ce micro. Et puis, tout d'abord, une comédienne, Ingrid Lebrasseur. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, et puis j'évoquais qu'il y avait des enfants, donc on a quatre de ces enfants qui ont participé à ces deux fictions. Et nous avons tout d'abord Eva.
Oui,
voilà, bonjour Eva.
Bonjour.
Voilà, ensuite à tes côtés. Oui, bonjour Sarah. Oui, bienvenue. Nous continuons. Nous avons aussi, alors, cette fois-ci un jeune garçon.
Omar.
Voilà, bonjour Omar.
Ryan.
Et voilà, bienvenue à tous les quatre en tout cas. Et puis, j'évoquais Radio Méga, notamment, nous avons le plaisir d'accueillir aussi Raphaël Terribilé.
Bonjour à tous.
Voilà, hein, et vous êtes responsable justement, on en parlera un petit peu plus à fond tout à l'heure, des ateliers pédagogiques justement qui, à Radio Méga et qui permettent justement ces initiatives.
Tout à fait, oui.
Voilà, et ces jeunes enfants ne sont pas venus tout seuls aussi, ils sont accompagnés puisque on en parlera également, ils sont dans le cadre d'un CESAD et donc des éducatrices sont présentes aussi avec nous, Joël Lacly également, bonjour.
Bonjour.
Et puis à vos côtés, Valérie Trichet.
Bonjour. Alors, il se trouve que je ne suis pas éducatrice, mais psychomotricienne.
Bah alors, psychomotricienne, très bien. Bonjour. Et toutes les deux, voilà, vous travaillez sur le CESAD, à Valence.
Voilà, donc toutes les deux, nous travaillons sur les trois services qui sont concernés par cette section. Donc, Joël en tant qu'éducatrice et moi en tant que psychomotricienne, nous avons accompagné ce projet de fiction radiophonique.
Peut-être, pendant qu'on y est, on peut juste préciser peut-être sur nos, pour nos auditeurs aussi, on entend souvent des sigles et autres. C'est vrai, quand on parle d'un CESAD, qu'est-ce que c'est qu'un CESAD ?
Alors, un CESAD, c'est un service d'éducation spécialisée de suivi à domicile. Mmh. Donc, c'est un gros vilain mot qui veut juste dire que c'est un service... où travaillent beaucoup de professionnels.
Oui.
Enfin, c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires qui interviennent auprès des enfants dans leur quotidien. Ce sont tous des enfants qui sont à domicile, qui sont chez eux, qui sont en circuit scolaire ordinaire et qui ont des rééducations sur leur temps scolaire.
Voilà, c'était important comme ça de le préciser pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Alors peut-être, on pourrait commencer ensemble, Raphaël Terribilé. Peut-être pour revenir dans un premier temps, pour dépeindre peut-être ce cadre justement qui permet ce type d'action et notamment la volonté justement de Radio Méga de proposer à des jeunes justement de s'engager. Alors il y a ces jeunes-là, mais je sais qu'il y a une multiplicité de projets qui sont développés dans ce cadre-là. Et comment est venue un petit peu l'envie au niveau de Radio Méga de vraiment développer de manière assez importante cette action-là?
Alors Radio Méga, depuis le toujours, est dans l'éducation populaire. Et donc, on est depuis très longtemps, on a créé des ateliers pédagogiques, que ce soit avec des enfants ou des adultes. Et là, on va dire que depuis 2-3 ans, la radio prend, on va dire, une nouvelle direction et on a envie de partir sur un côté un peu plus créatif. Donc, il y a des nouvelles émissions chez nous qui vont dans ces directions-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce travail de fiction radiophonique auprès de jeunes.
Et là, du coup, c'est intéressant parce que on entendait habituellement sur beaucoup de grandes chaînes de radio, je pense France Culture et d'autres, plutôt ce type d'émission. Et c'est intéressant de voir comment, du coup,
après, il y a de moins en moins de radios qui en diffusent aussi.
On est d'accord.
Il y a moins en moins de fonds qui sont alloués à ça. Il y a la Belgique qui est très très en pointe,
n'est-ce pas,
dans ce domaine. France Culture est en train de diminuer. Donc,
tout à fait.
Nous, en tant que radio associative, on prend le relais et on n'abandonne pas et on y
va. C'est ça que je trouve effectivement très important, une réappropriation aussi. Alors, certes, il y a les moyens, certes aussi, il y a toutes ces problématiques-là, mais je trouve assez pertinent, de fait, justement.
Oui, puis nous, ça nous intéresse aussi de recentrer, de remettre le son au centre de tout ça, et parce qu'on est submergé d'images constamment, et que le son a un pouvoir immersif bien plus intéressant, en tout cas à mon goût.
Que l'image. Alors, on va situer Radio Méga, on en reparlera aussi un peu. Elle est établie à Valence. Hein.
À Valence depuis 81.
Depuis, voilà, c'est ça. Et puis, quand on parle, on va venir bien sûr plus précisément sur, avec la présence avec nos amis, là, sur ce qui s'est passé. Mais par exemple, c'est travailler aussi avec des collèges, c'est travailler avec quel type de public, par exemple.
Alors, toute l'année, on travaille avec... moi, cette année, par exemple, pour donner des exemples, je travaille avec des petites sections maternelles jusqu'en BTS.
Ah oui.
Alors, sur les petites sections, moyennes et grandes sections, on va plutôt être sur de la création de petites chroniques où on va travailler sur le son et de la création de génériques et de petites ambiances sonores, voilà, avec des petits touts. Avec des primaires, on réalise des émissions. On est sur des ateliers de 7 séances et à la fin, on finit par une émission sur une thématique de leur choix ou en tout cas que l'instituteur ou institutrice a choisi. Avec les collégiens, on fait à peu près la même chose, sauf qu'on finit là par des émissions en direct et en public où on essaie de mêler un peu tous les élèves du collège. Et il y a par exemple, c'est les profs de musique qui travaillent sur les intermèdes musicaux. Donc il y a des musiciens en direct, plus
le plateau. Ça permet de nouer des partenariats suivant les choses à réaliser.
Et les plateaux sont entièrement animés par les jeunes. Nous, on est là en dehors. Mmh. En fait, on se soustrait petit à petit. Et à la fin, ils ont les manettes complètes du travail. Et puis après, on va dire que plus on monte en âge, on va dire plus on est un peu exigeant sur le fond. Mais la forme, elle est souvent similaire.
Ouais. Similaire.
Et puis après, nous, on travaille aussi avec... je travaille avec des adultes aussi. On fait de la remobilisation à l'embauche, à l'emploi. Voilà, on va dire un peu d'insertion sur différents types de publics.
Très bien. Alors peut-être avec vous, Ingrid Le Brasseur, on va peut-être se poser aussi... Qu'est-ce que c'est qu'une fiction radiophonique ?
Alors une fiction radiophonique, c'est un objet qui sort du cadre radiophonique qu'on a l'habitude d'entendre, de l'interview ou du reportage. C'est quelque chose... En fait, on pense qu'en radio, on peut faire que de l'interview, mais on oublie trop souvent ce côté où on peut imaginer ce qu'on veut, on peut écrire une histoire. Simplement, la fiction radiophonique, il faut qu'elle laisse la place à l'environnement sonore. Donc on la pense dès le départ au niveau de l'écriture comme une réalisation sonore. Donc on va déjà réfléchir, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait les enfants, à ce personnage, comment il va être reconnaissable de façon sonore. Peut-être il aura un tic ou alors quelque chose au niveau toujours du son. Donc il y a une manière de l'écrire déjà à la base qui est un peu différente. Même si, finalement, on peut très bien mettre en fiction radiophonique un peu tout ce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut, effectivement.
Je pense. Enfin, après, il faut une adaptation, mais on essaye simplement de se dire qu'on n'a pas l'image et qu'au contraire, on a plus que ça, peut-être. En tout cas, on peut jouer, créer un décor qui soit entièrement sonore, par exemple. Donc, ça demande une petite adaptation, mais je pense qu'on peut tout faire en fiction radiophonique, y compris peut-être même des choses... qu'on voit moins souvent, mais comme du documentaire, mais sous forme de fiction.
C'est-à-dire
des choses du réel, mais qu'on transpose et qu'on peut. C'est un peu ce qui se passe aussi au théâtre. On peut porter des messages, aussi par la fiction radiophonique. Quoi.
Complètement. Et là, du coup les enfants travaillent autour dégager une histoire. C'était ça, une des premières approches de qu'est-ce que ça pouvait être ?
En fait, le projet, il comprend vraiment une approche de la fiction à tous les stades, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la mise en onde et même jusqu'à la présentation publique qu'on réalise aujourd'hui même au Train Théâtre, qui est une belle salle de notre région. Donc on est très fiers de pouvoir leur offrir, leur permettre à ces jeunes de faire écouter ce qu'ils ont fait dans une salle comme ça, qui a une vraie résonance publique et locale. Donc ils ont écrit l'histoire, alors sous forme de petits jeux au départ. Déjà c'est ce qu'ils ont envie d'écrire, ils vont nous le raconter je pense mieux, mais on part sur les sujets que eux ont envie d'aborder. Ensuite, c'est Julien Marty qui fait ce travail-là plus particulièrement avec des post-it. Ils font une espèce de
projection de ce que va être un petit peu...
Les personnages, les actions, ils vont nous le raconter très bien, mieux que
peut-être
moi.
Peut-être Omar ou Ryan. Alors, par exemple, comme il y a deux fictions, et donc il y a peut-être deux qui se sont imaginées, tu as travaillé sur laquelle de quoi elle parle, cette fiction, sur celle que tu as travaillée
Ça parle de quoi la disparition d'un élève.
Ouais.
D'un ou deux élèves.
Et qu'est-ce qui leur arrive alors à ces élèves alors justement ? Ils ont peut-être des prénoms ces élèves aussi, non ?
Non.
Non, pas forcément. Ouais.
Et ils ont été enlevés par leur prof.
Enlevés par leur professeur. Et donc du coup, qu'est-ce qui leur arrive alors à ces élèves ?
Et après. Après, il y a deux de leurs copains qu'ils étaient disparus.
Ouais.
Après, ils vont mener leur enquête. Après, et au final, ils vont les retrouver.
Ils vont les retrouver.
Ouais.
Et pour toi, Sarah, c'était sur la même histoire ou tu étais sur l'autre fiction ? Eva ou Sarah ? Est-ce que tu étais sur cette fiction alors ?
Oui.
Oui ? La même que Oumar. Ouais. Alors, et comment on évoquait avec Ingrid, voilà, comment ça se passe? Comment tu as trouvé, toi, de participer à un projet comme celui-ci? C'est la première fois que tu participes à une fiction comme ça, radiophonique?
Oui.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu... Comment tu as trouvé ça, toi, de vivre une aventure comme celle-ci?
C'était bien.
Ouais. Et il y a des choses que tu as préférées dans... On parlait, il y a l'écriture, il y a aussi à chercher les ressources sonores. Ingrid en parlait là aussi tout à l'heure. Il y a des aspects que tu as préférés par rapport à d'autres dans ce que vous avez cherché ensemble, dans comment vous avez mis en forme les choses? Non?
Non.
Et toi, Eva, alors? Tu étais sur une autre fiction?
Oui, c'est ça.
Alors, quelle était cette histoire, alors? Là, on avait deux élèves enlevés. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vôtre?
Là, c'était plusieurs jeunes amis, en fait, qui ont eu un jour des pouvoirs surnaturels.
Ouais.
Et c'était... y en a une qui a paniqué et qui est allée voir le médecin. Et le médecin, il a voulu essayer d'aller voir un petit peu plus près et il l'a enlevée. Et finalement, c'est donc les autres amis qui n'avaient pas de nouvelles d'elle, finalement... On réussit à la retrouver grâce à leur pouvoir qu'ils avaient aussi. Voilà.
Ouais, donc là aussi, plutôt une histoire fantastique. Là, un
oui,
peu.
C'est ça.
Voilà. Mmh. Et là aussi, pareil, donc l'histoire s'est établie. Et puis, qu'est-ce que tu as préféré, toi aussi, après, dans la manière de mettre en forme toute cette histoire radiophonique?
Moi, j'ai bien aimé quand on a mis toutes nos idées sur le papier et que ça a formé une vraie histoire, au final, avec toutes les idées de chacun. Mmh. Et que, ouais.
Chacun a cherché ses petites idées d'abord au départ.
Ouais, au départ, il y avait plusieurs idées, notamment pour quand on voulait trouver les deux fictions, le thème qu'on allait partir.
Ouais.
On est parti au départ sur un thème et sur un suspense. Et après de ça, avec toutes les idées des gens de la fiction, on a réussi à créer un scénario et tout ça.
Résonance sur Radio B, émission spéciale à l'écoute de la fiction, des fictions radiophoniques du CESA de La Page à Valence avec Radio Méga au Train Théâtre de Portes-les-Valences. Alors on va continuer, on entendait un petit peu dans ce que disait Ingrid Le Brasseur ou déjà les enfants qui sont là. Voilà, faut chercher des idées, faut trouver un thème, une histoire, faut mettre en forme les choses, des textes courts. On rentre un peu dans la cuisine, un peu de comment ça s'est organisé, si je peux dire.
En fait, les séances, à chaque fois, elles étaient divisées en deux. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui était plutôt sur de la réflexion. Donc, ce que disait Eva, on a fait un brainstorming pour savoir où on allait aller. Et à chaque séance, après, on développait ce qu'on avait décidé de développer.
Oui.
Et par contre, les deuxièmes parties de séance, on essayait de faire à chaque fois des petits jeux sonores. Voilà, et c'était aussi une façon de se décomplexer face au micro. À force d'être habitué à parler dans un micro, de s'entendre dans un casque, ça allait permettre aux jeunes, ils s'en sont peut-être pas rendus compte tout de suite, mais nous, on s'en rend bien compte, ça permet que lorsqu'on fait la semaine d'enregistrement où on doit prendre, où il y a les micros qui se mettent, qu'il y a les perches, il y a tout le matériel, d'un coup, on a tendance à les oublier parce qu'on sait déjà ce que ça fait, on connaît déjà. Et ils ont travaillé sur... je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait comme jeu? Des fois, ils devaient faire deviner des situations rien qu'en faisant des bruitages. Mmh. Voilà. Et après, on faisait des écoutes collectives. On enregistrait ça très rapidement. On faisait des écoutes collectives. Il y avait des équipes. Et voilà, c'était l'équipe qui retrouvait le plus de bruitages ou de situations grâce au bruit qui gagnait. Voilà. Il y avait à chaque fois des petits jeux. Il y a eu des... Ils ont eu des trucs très difficiles, même la première fois. Ils avaient un thème, genre c'était soit comédie, horreur, fantastique.
Ouais.
Après, ils avaient un objet, genre un ballon, une carotte ou un verre d'eau. Et une phrase, mon poissonnier m'a dit, et débrouillez-vous avec ça.
Qu'est-ce qu'on fait
avec
ça ?
Vous devez faire 3 minutes d'histoire, vous avez 5 minutes pour chercher, et après ça partait en improvisation. Voilà, donc ils ont fait plein de jeux aussi comme ça, où ils se sont... ça leur a permis de se découvrir parce qu'ils ne se connaissaient pas tous dans le groupe. Et puis, ça permet aussi de s'amuser devant un micro à faire du bruit. Je me souviens d'Eva qui cherchait un paquet de chips, mais bon, on n'avait pas tout le temps des chips à la radio. Donc, elle est allée chercher un des sacs plastiques dans lesquels il y avait je ne sais pas trop quoi. Et ça faisait un bruitage extraordinaire. C'était très, très proche des chips. Et voilà, en fait, il y a c'était système D à chaque fois. Et ils ont su à chaque fois. Trouver les solutions pour s'exprimer avec le son.
Il y a un débruitage éventuellement qui s'est fait avec la voix. Il y a des choses que vous avez recherchées sur ce côté vocal ? Un peu ? Ryan ? Non ? Ouais ? Il y a eu des sons quand Raphaël évoque, à un moment donné, on donne quelques indices, puis du coup, il faut chercher, à quelle matière sonore va correspondre ? Il y a des choses que tu as essayé, toi, éventuellement avec ta voix, ou que tu pourrais nous faire dans les propositions que nous aidait Raphaël. Tiens, pof, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir
avec la voix? Non, j'ai rien fait.
Non? Ouais.
Souvenez-vous, quand vous avez la scène du laboratoire, vous avez fait plein de choses aussi. Et à la scène du laboratoire...
Si, on a fait des bruitages.
Ouais.
Et puis, il y a quand Eva, elle dort... Là, vous avez fait plein de choses avec vos mains, avec votre bouche.
Tu te rappelles un peu de ce que vous aviez trouvé ? Ouais, Oumar, tu pourrais nous... Tiens, si tu lui tiens le micro, tu pourrais nous faire les quelques sons que tu avais trouvés, Oumar ?
Non, mais j'ai rien trouvé, mais je me rappelle, on devait faire ça, un truc...
Ouais, vas-y, si tu rapproches un tout petit peu le micro.
Et on devait faire quoi encore ? On devait faire son cœur.
Ouais, on devait faire les battements du cœur. Tu te souviens ?
Ouais, mais j'ai rien là.
Décris-le, comment tu as fait ?
Et avec quoi, par exemple, tu l'as fait ?
C'était quoi ? C'était un sac.
Ouais.
Un sac et je le tirais comme ça, avec des à-coups. Et...
Donc, du coup, c'est ça qui était aussi intéressant. Il y avait peut-être l'objet, l'idée, et du coup, comment on allait la matérialiser au niveau sonore, comment on allait même, ça donnait une sacrée recherche au niveau du son aussi. Ça place le son en premier lieu, finalement. Mmh. Et ça, c'était intéressant d'apprendre à manier le son, à découvrir le son comme ça.
C'était son cœur, c'était pas le mien.
Alors peut-être aussi, puisque vous étiez aussi très impliqué dedans, Valérie Trichet, on parle que les enfants se sont aventurés aussi justement dans les espaces d'inventivité que Raphaël pouvait proposer. Je crois que vous aussi, vous êtes énormément impliqué aussi au travers de ces deux histoires.
C'est vrai qu'on s'est retrouvés au même stade qu'eux, on a découvert en même temps qu'eux, parce que c'est vrai que c'était un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout, donc on a découvert en même temps comment on monte une fiction, d'abord l'idée, et puis ce qui est intéressant, c'est être dans le monde du bruit, du son, et on a eu l'impression de voir du son, enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti,
c'est intéressant.
De voir du bruit, de voir du son, enfin, on l'imagine tellement qu'on a l'impression de le voir. Voilà. Et puis de voir les idées de chacun avec rien, avec trois fois rien, parce qu'on avait vraiment peu de choses. Le bruit d'un cheval, le bruit d'une vague, le bruit d'un alpiniste qui arrivait au sommet. Il fallait inventer le bruit d'un alpiniste qui arrive au sommet. Enfin, c'était juste improbable. Mais bon, on y est arrivé.
Et Joël Lacly, vous aussi, vous le lançant dans cette aventure, découvrant avec les enfants, là aussi, c'était un chemin passionnant pour vous ?
Oui, en fait, on a l'impression d'être des magiciens, comme si tout était possible. C'est ce que disait Ingrid tout à l'heure, c'est qu'on peut presque faire tout. Il n'y a plus de limites.
Ça ouvre un champ de création incroyable.
Oui, voilà, complètement. On n'est pas limité ni par son corps, ni par justement des images. Et ce que disait Valérie, avec trois fois rien, on fait presque tout. Et on a vraiment... enfin, moi, c'est ce que je retiens. J'ai eu l'impression d'être une magicienne pendant ces moments-là.
Et est-ce que du coup, dans les moments, j'imagine qu'il y a ces moments ici qui se passaient, Après, les enfants pourraient nous en parler aussi de leur point de vue, mais est-ce qu'il se passait des choses, du coup, ça a modifié des choses dans leur manière, peut-être, à l'extérieur, de ces moments-là, tiens, de s'intéresser à des sons, d'essayer des choses, de s'aventurer eux-mêmes, au fur et à mesure qu'avançait cette découverte et cette aventure, à essayer des choses en dehors
Oui, oui, complètement. C'est vrai que ça ouvre des possibles, en fait. Ouais. On se mettait après des détails, mais quand on revenait en voiture, on disait, tiens, le bruit de la voiture, du clignotant, ça pourrait être le bruit de la soucoupe volante qui arrive. Enfin, c'était marrant d'imaginer. Après, on se sentait devenir plus créatif encore. Voilà.
On voit, Raphaël Terribilet, que du coup, ça change complètement le mode d'écoute et le mode de rapport au son.
Oui, oui, bah c'est aussi le but, c'est être plus attentif à ce qui nous entoure pour mieux le comprendre aussi, le monde qui est là. C'est vraiment une première approche pour eux aussi. Voilà,
bien sûr.
J'espère que ça va les aider par la suite. Mais c'est aussi intéressant parce que nous, c'est quelque chose de nouveau sur Radio Méga. Et on va dire qu'on apprend en même temps qu'eux. Voilà, on essaye énormément de choses. La dernière fois, je me souviens, on a voulu faire une petite souris. Je venais juste de démonter un appareil qui était cassé à la radio. Et en fait, on a trouvé que le ventilateur de l'appareil qui était cassé a trouvé une deuxième vie parce qu'il couinait très très bien.
Parce qu'il couinait très bien.
La petite souris, voilà. Et donc comme ça, moi, je suis en train d'accumuler des tas d'objets. Il faut que j'arrête d'ailleurs parce que ça, je vais avoir plus à leur place. Mais j'aime bien les bruits qu'ils font. Voilà. Donc, maintenant, je les garde.
Et Eva, justement, est-ce que Raphaël raconte justement, du coup, que ça focalise son écoute, son rapport aux objets, etc. Ça a éveillé des choses en toi, par exemple, maintenant, quand tu écoutes des sons autour de toi, tu les regardes ou tu les écoutes autrement,
Moi, plus même, des fois, je me suis surpris, je me dis, ce bruit, il irait bien.
C'est ça.
Pareil, un peu comme Joël, en fait, a dit tout à l'heure.
Ouais. Et ça t'intéresse de continuer justement au-delà de cette expérience et du coup de le fait que ça a changé finalement en rapport au son.
Bah ouais, je me suis pas en fait forcément rendu compte, mais des fois c'est vrai que ouais, il y a des sons comme ça qui m'attirent plus.
Tu te dis tiens celui-là finalement je le garderai bien ou
c'est ça.
Et même à la maison, des fois, ça te, enfin, dans ces espaces où vous étiez en recherche tous ensemble, ça t'est arrivé, comme vous étiez certainement sur l'idée, l'imagination, trouver les choses.
Oui.
T'as essayé des choses chez toi aussi avec
Tout à fait.
Quel type de choses t'as essayé, par exemple
Les bruits des couverts dans la cuisine, dans la vaisselle.
Et alors là, justement, qu'est-ce qui t'intéressait dans ces sons-là
Je trouvais que ça faisait un beau bruit mécanique.
Ouais.
Et ouais, c'est... Même chez moi, des objets qu'avant je lui prêterais pas attention, le son que ça faisait juste un son normal.
Bien sûr.
Bah maintenant ça me paraît plus comme avant. J'ai l'impression que ça fait pas le même bruit qu'avant, alors que ça fait toujours le même bruit, mais que.
Mais ça a changé ta perception de ce son. C'est là où c'est effectivement important. Et pour toi, Sarah, t'as eu aussi ce rapport comme ça. Peut-être que du coup, tu perçois aujourd'hui, au travers de cette aventure, vous avez partagé ensemble autrement les sons. Ça a changé des choses pour toi?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment ?
Non.
Le son des casseroles dans la cuisine, tu l'entends pareil, pas plus ou ça n'a pas changé ton rapport à ça ou à d'autres ?
Non.
Non ? Et toi, Oumar, alors ? Est-ce que comme Eva, ça a fait changer des choses dans la perception des sons ?
Moi, je ne fais jamais la vaisselle.
Ça, c'est une chose, mais il y a peut-être d'autres sons qui t'intéressent ailleurs ou que tu as chez toi ou que peu importe, quand tu rentres dans la rue, quand tu es dans la rue. Et que, du coup, est-ce que ça a changé ta manière de recevoir les sons que tu as autour de toi ?
Non, moi, c'est la table. J'aime bien taper dessus et faire de la musique avec.
Ouais. Et comment tu fais de la musique, alors, sur la table ? Tu pourrais nous faire entendre quelque chose ? Tiens, tu mets les... Voilà, merci, Ryan. Ryan va faire un petit peu ingénieur du son. Yeah. Merci. Alors peut-être qu'on vient de parler d'une de ces deux histoires. On va essayer peut-être d'en entendre un petit extrait. Je ne sais pas avec Simon ce qui a été décidé.
On a décidé de passer les deux introductions à chaque fois. Alors c'est marrant, ils ont pas encore entendu ce que
ça va donner.
Ils n'ont pas entendu les musiques. C'est vraiment la découverte ce soir. J'espère que vous ne serez pas déçus.
Alors, premier petit extrait.
Nous sommes dans la classe de 3e du collège de Arouin, dans une classe un peu agitée. Monsieur Bonnet, le professeur de français, termine son cours par une série de questions sur la séance.
Puisque vous n'avez rien écouté et que vous voulez jouer au plus malin, je vais vous poser des questions. Celle ou celui qui ne répondra pas aura une heure de colle.
Oh, monsieur.
Silence. Younes, à la barre, s'il te plaît. Cite-moi deux pièces de Molière.
Les femmes et les savants et les malades imaginaires.
Vous croyez que je n'ai pas entendu les chuchotements? Je ne veux plus rien entendre. Amanda, à la barre, s'il te plaît. Quel est le vrai nom de Molière?
Jean-Baptiste Poquelin.
Cela suffit maintenant de donner les réponses. Vous, les trois du fond, qui savez toujours tout, vous allez m'attendre à la sortie. Allez, sortez de mon cours. Ouais. Hey, pas si vite. Les trois du fond, vous m'attendez, c'est clair?
Résonance sur Radio B, émission spéciale à l'écoute des fictions radiophoniques du CESAD de La Page à Valence, avec Radio Méga, au Train Théâtre de Portes-les-Valences. Alors là, Raphaël, un premier petit extrait, là, justement, de...
Alors, c'est l'histoire dont parlait Oumar tout à l'heure. C'est Monsieur Bonnet, le professeur, qui n'est pas très content, parce qu'il y a toujours les trois mêmes élèves, c'est les trois meilleurs de la classe, qui sont en train de souffler.
En permanence.
En permanence, donc ça dérange son cours et ça l'énerve. Et donc, il leur donne rendez-vous à la fin du cours, mais ça, il faudra écouter la fiction pour savoir ce qui leur arrive exactement.
Exactement. Oumar, c'était toi, alors? Le professeur.
Ouais.
Alors, déjà, quand tu écoutes, puisque tu n'avais pas encore écouté, là, quelles sont tes impressions par rapport à ce petit extrait, hein, simplement, mais comment tu trouves à l'écoute, là, maintenant, de ça?
J'aime bien. Je m'aime.
C'était intéressant d'être le professeur. Tu as aimé d'avoir ce rôle-là?
Ouais.
Ouais.
Je voulais être l'acteur principal.
Ça n'a pas manqué, alors.
Ouais.
Alors, du coup, ça, c'est le premier extrait. On va essayer d'en écouter. Oui, pardon, Raphaël.
Non, je vous laisse continuer.
Donc, du coup, on va peut-être écouter... tu étais aussi, Eva, dans celle-ci? Dans la deuxième. Alors, on va écouter celle-ci.
C'était ta voix, mais Eva est l'actrice principale de la deuxième.
Ah, donc voilà. Alors, on va découvrir maintenant le deuxième début, introduction en tout cas, de cette seconde fiction radiophonique réalisée donc par les enfants du CESAD de La Page à Valence avec Radio Méga.
Sur le terrain Vague de l'Amour RTL, dans la zone industrielle de la ville de W. Anna, Martin, Jonathan et Alice sont des amis inséparables. Comme chaque fin d'après-midi, ils aiment se retrouver pour jouer, discuter et passer du bon temps.
Ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Ouais, c'est clair.
J'ai garé mon scooter là-bas, vous pensez que ça va déranger ou pas?
Non, je pense pas, je l'ai barré avec le mien.
Ok, j'ai un ballon, qui c'est qui veut jouer?
Moi, je veux bien.
Bon, ben c'est parti. C'est qui compte?
Moi, je suis pas très bien compté, alors.
Là, je viens de sortir des cours, alors, hein.
Ah non, moi non plus, je suis nerveux.
Bon. Qui c'est qui a mis à manger? J'ai trop faim.
Oh, mince, j'ai oublié.
T'es sérieux? Mais c'était à toi de l'emmener. Oh, je sais. Regardez cet arbre. Il y a des fruits dessus. On a quoi les prendre?
Vous avez vu ou pas le panneau tête de mort avec nos dédangers, là, sur le grillage? Moi, j'y vais pas, ça me fait flipper, hein.
Ouais.
Bon, j'y vais.
Eh, hey, fais gaffe, hein, y a la centrale nucléaire là.
Ouais. Fais gaffe, ça peut être dangereux, hein.
Ouais, ça peut être dangereux.
Allez, regardez ce que j'ai trouvé.
Merci,
cool.
Cool.
Franchement, c'est trop
merci.
Cool.
Y a personne qui t'a vu au moins?
Non.
Cool, c'est bon. Putain, ça a l'air trop bonne.
Grave. Vas-y, donne-en une.
Tiens.
Merci. Elles sont trop bonnes.
Ouais, oh là là, c'est un régal.
La fin de journée arrive. Chacun rentre chez soi.
Ah,
Résonance sur Radio B, émission spéciale à l'écoute de, des fictions radiophoniques du CESA de La Page à Valence avec Radio Méga, au Trintéa de Portes-les-Valences. Alors voilà, deuxième extrait en tout cas. Il y a une atmosphère complètement différente d'ailleurs. Hein, comme...
Chaque fiction, pour chaque fiction, on a travaillé donc l'histoire, mais ils ont aussi défini dans quel lieu devait se définir quelle scène, quel bruit devait y avoir. Et tous les bruitages, hein, vraiment tous les bruitages des deux fictions d'ailleurs, sont faits entièrement par les enfants. J'ai peut-être rajouté un moment un téléphone qui sonne parce qu'on
n'avait
pas enregistré correctement.
C'est ça.
Et il y a une scène de bagarre dans la disparition avec l'inspecteur Bernard et Monsieur Bonnet. Pas Monsieur Bonnet, l'autre méchant.
L'autre méchant.
Le docteur Gédot.
Voilà.
Et là, j'ai rajouté un ou deux coups de poing, mais sinon, c'est vous qui avez fait tous les coups de poing, les cris. Voilà, tout est fait. Ils ont travaillé absolument sur.
Mais il y a une recherche sonore. Extrêmement importante.
Dès le début, en fait, quand ils écrivent le synopsis, ils réfléchissent où va être enregistrée la scène. Après, il y a aussi. On n'a pas pléthore de lieux, donc on essaie de s'adapter. Là, on a eu la chance d'avoir un lieu, un théâtre qui nous a été mis à disposition gracieusement par Quai de Seine.
Oui, ça, c'est, on évoquera les partenariats. Ouais.
Et donc, on a utilisé l'environnement qui était autour.
Qui était là.
Il fallait que ce soit en extérieur, donc on s'est mis dehors. Et après, il a fallu rajouter des bruits de pas. Donc, il y a un autre enfant qui a fait des bruits de pas. On a enregistré les bruits de pas séparément. Voilà, il y a des choses qu'on a faites séparées pour mixer après ensemble.
Mais là aussi, les enfants participaient à certains mixages aussi à certains moments donné.
Alors, le mixage, c'était,
dans cette partie-là.
C'était plutôt très long. Donc on l'a pas fait. Par contre, chaque jour d'enregistrement, on réécoutait ce qu'on avait fait et on choisissait. On faisait déjà une première sélection de ce qui avait été bon ou pas bon. Et par contre, on essayait des fois. Des fois, j'ai pu leur montrer des petits effets sur des sons, pour voir ce que ça pouvait donner, quoi. Tout petit à petit.
Est-ce que du coup, peut-être dans l'accompagnement que vous avez pu avoir l'une et l'autre, Valérie Trichet, justement avec les enfants, ça vous a donné l'idée peut-être d'écouter ensemble d'autres, par exemple, fictions radiophoniques qu'il pourrait y avoir, ou d'essayer de se dire tiens, qu'est-ce que d'autres auraient fabriqué ou
Alors c'est vrai que c'est une très bonne idée et en tout cas on l'a encore pas fait. Moi je voudrais juste rajouter par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui était vraiment très intéressant, c'était aussi l'engagement corporel des enfants. Et c'est vrai que quand on pense à son, à faire du bruit, on imagine qu'on peut faire tous ces bruits sans bouger. Et en fait, ce qui était difficile pour eux, c'est qu'il y avait un réel engagement corporel.
Effectivement.
Et pour certains, bon, on a des enfants en situation de handicap, c'est pas forcément facile. Et c'était un vrai jeu d'acteur. Et là, c'est vrai que toute la symbolique de travailler aussi avec une actrice, c'était intéressant parce qu'ils ont vraiment dû jouer. Vraiment jouer et se mettre en scène, parce que c'est pas juste être assis dans un fauteuil qu'on peut faire un cri ou voilà. Il faut que tout le corps s'engage dans cette décharge en fait sonore. Et c'était ça qui était difficile et qu'ils sont arrivés à faire quand même.
Et là, on voit développement de l'écoute, développement de la conscience corporelle, puis de voir qu'aussi qu'un son, ça se fabrique. Donc, du coup, comment je suis acteur de cette fabrication au travers de mon geste, ma pensée.
J'ai en tête un enfant qui devait crier. Et voilà, il a eu beaucoup de mal parce qu'il fallait qu'il s'engage corporellement, qu'il avance, qu'il fasse un pas et qu'il crie en même temps. Enfin, ça a eu tout un travail pour lui qui a été coûteux, mais bon, au final, il est arrivé.
Et le fait de vivre ça, Joël Lacly, cette aventure, je dirais là, alors, sur le plan de l'institution, hein, par exemple, comment c'est vécu aussi de fait que vous soyez engagé dans cette partie-là, dans un projet assez particulier, un travail de création avec tout ce que vient de soulever aussi dans les enjeux qu'on pourrait voir aussi, notamment à ceux qu'a soulevé Valérie Trichet. Comment s'est perçue aussi cette aventure aujourd'hui ? Ça modifie des choses ?
Ça modifie, j'ai pas envie de dire complètement le regard qu'on a sur nos jeunes, parce que, mais en tout cas, on a été surpris de manière très très positive par les prestations qui nous ont faites, parce que je pense qu'on
ça décentre le regard, quoi, finalement.
Oui, et puis on n'imagine pas à quel point à un moment donné ils ont un pouvoir de création. Moi, je me suis vue à des moments avoir pas d'idée sur comment faire tel ou tel bruitage. Et pour le coup, les jeunes, ils étaient complètement dedans. Et voilà. Donc, en tout cas, ça nous a permis de les voir dans un contexte différent aussi.
C'est ça.
Et de sortir de toutes nos rééducations et de tous nos accompagnements habituels. Et ça, c'était très, très chouette. Ça a créé une nouvelle dynamique aussi. Et puis,
oui, parce qu'on découvre de nouvelles potentialités où on n'aurait pas imaginé que peut-être il y avait ce degré d'inventivité ou ces mouvements, j'imagine. Tout à l'heure, quand on évoquait le fait que ça engage le physique, celui-là, finalement, dans ce mouvement-là, ça fonctionne.
Oui, puis je pense que nous aussi, des fois, on les préserve peut-être un peu trop. Et pour le coup, qu'ils soient accompagnés par Ingrid, Raphaël et puis Julien, qui ne les connaissaient pas à la base, ils leur ont demandé des choses que nous, on n'aurait peut-être pas osé leur demander. Et ça, je crois que ça a fait beaucoup de bien.
C'est intéressant, ça, Ingrid, ce que soulève Joël Lacly. Et là, on rejoint peut-être des questions de fond sur le domaine artistique. C'est-à-dire que du coup, l'exigence artistique, l'exigence du projet, on l'entendait dans comment le rapport au son, dans comment. Pour dire aussi qu'on n'est pas en train de, je dirais, d'adapter une pratique artistique pour dire qu'elle puisse aller vers tel public ou tel autre, mais. Voilà, on est dans cette exigence que va réclamer effectivement cet aspect radiophonique. Et là, en l'occurrence aussi, de la mise en scène, de la mise en forme aussi.
Oui, d'ailleurs, donc il y a eu les séances d'écriture. Et puis après, il y a quand même eu une semaine entière à raison de 5 heures, de 10 heures du matin jusqu'à 16 heures, quasiment non-stop.
Donc un temps très
intense. On leur demandait de la concentration. Mmh. On a entendu la scène avec Oumar
à
l'heure.
Oumar,
Et moi, il y a des moments, ils m'ont complètement scotché parce qu'on a tourné en plan séquence. Comme on dit dans le cinéma, et donc après on adaptait parce qu'autour du micro, parce qu'on a toujours la conscience du micro qui est là, mais ils ont joué la classe et on a fait toute une page de la fiction où ils ont en impro quoi.
Oui.
Et il n'y avait quasiment rien à retoucher parce que l'idée, ce n'était pas non plus de devoir recracher des mots, mots précis, d'apprendre par cœur. C'est plus de s'approprier, de le jouer. Moi, je trouve que c'est important qu'il le joue pour avoir l'intention.
C'est
parce qu'on aurait pu très bien aussi la faire au micro, comme ça, de façon statique.
De façon statique, mais ça allait changer complètement les choses.
Voilà. On a fait aussi jouer Eva qui était ligotée et qui devait... on l'a ligoté gentiment.
Hein. J'imagine.
Et qui devait dire sauvez-moi et tout. Et donc, on a essayé de faire une mise en situation. Et puis, c'est vrai que sur ce travail-là, il y a eu un travail sonore qui a été très, très intéressant et qu'on a cherché tous au fur et à mesure. Il y a un laboratoire parce que les enfants, ils ont plein d'idées. Alors,
c'est
on part dans des trucs fantastiques avec un laboratoire, mais après, comment on fait? Donc, ils avaient tous des verres d'eau avec des pailles. Il y avait le cœur donc par Oumar, après on prenait une bouteille plastique, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre, et en fait en rond comme ça,
ouais.
Et puis on avait Eva qui était ligotée au milieu, on avait le rire sardonique, et en fait ça c'est un petit moment où c'est de l'électroacoustique pure. Ouais. Ça devient très musical. Et c'est un laboratoire un peu barré quoi, mais et c'était un super moment quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment super.
C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup à la fois il y a la forme qui va permettre de donner un peu les directions, mais en même temps il y a l'inventivité permanente à l'intérieur de la forme.
Même
qui
nous
va être
on
là.
Savait pas trop où on allait. Enfin après on a une histoire, on sait ce qu'on veut. Enfin on sait vers quoi on va, mais on cherche ensemble. On se dit tiens, on devait aussi la porte à la fin là, ils doivent défoncer entre guillemets une porte, on s'est dit on va quand même pas le faire pour de vrai, mais quand même on a joué ça avec en situation quoi, hein. C'est l'inspecteur Bernard ici présent.
Ryan, inspecteur
aussi.
Bernard, alors du coup de s'engager, comme vient de le dire un petit peu, de jouer là finalement.
Il a fait plein de cascades.
Ah
Ryan.
Voilà. Tu as fait plein de cascades alors?
Ouais.
Ouais. Et c'était intéressant de s'investir. Comment t'as trouvé cette manière de jouer finalement?
C'était bien.
Ouais, ça t'a intéressé de pouvoir franchir cette étape?
Ouais.
Ouais. Et par exemple, dans cet inspecteur Bernard, là, quelle attitude physique il avait un peu à certains moments?
Grand-père.
Grand-père? C'est avec du coup, t'as cherché une posture aussi. Comment te positionner physiquement pour faire ce grand-père en réalité? Voilà, c'est ça, tu peux rapprocher.
Avachi.
Enfin... Oui, il pouvait être avachi, ouais.
Avec une canne.
Avec une canne. Et donc, du coup, le fait d'être avachi avec une canne, ça t'a donné quoi? Des modes de déplacement, de manière de parler, de manière. Ça a joué là-dessus?
Ouais, un peu.
Ouais, un peu. Eva, on entendait que du coup, voilà, tu étais au cœur de certaines actions. Là aussi, il y a tout l'intérêt, tu disais tout à l'heure, de la perception du son, mais là aussi, le fait de s'engager aussi, de s'engager physiquement, puis il y a aussi le côté inventivité, improvisation, même s'il y avait l'idée, mais d'improviser, tout ça, c'est comment tu as vécu ça?
Moi, j'avais déjà fait du théâtre avant
de
venir. Du coup, j'avais déjà, on va dire, quelques bases. Non, mais j'ai toujours été plus à l'aise dans l'impro, en fait. Parce que j'aime pas me suivre à une feuille, à un texte. Si, il faut que je l'améliore comme moi, je le ferai. Et du coup, c'est vrai que là, c'était... ça m'a vraiment plu et ça m'a plu.
Ouais, c'est intéressant, du coup, de même si là, on a une trame, et à partir de là, il faut travailler, inventer, réagir. Et ça, c'est important, ça. Ça te donne des envies de poursuivre, ça, ce type de choses, d'exploration, d'expérimentation? Alors, Ingrid, aujourd'hui, on est au Train Théâtre. Il va y avoir une présentation publique de ces deux fictions.
Oui, parce que alors, c'est la troisième étape. Alors, donc, il y a la semaine de mise en scène, enregistrement. Et donc, je répète quand même, c'est vrai qu'elle est très exigeante. En fait, on leur demande beaucoup. Et c'est vraiment... je tenais à dire qu'ils ont à chaque fois, ça leur demande de la concentration et tout. Et du coup, pour les enfants qui sont en vacances à ce moment-là, c'est une semaine un peu intensive.
Un peu intensive.
Mais du coup, je pense que ça vaut le coup. Et le travail de mixage, c'est Raphaël qui le réalise. Et donc là, on est à la dernière étape qui est vraiment une présentation publique. Donc, ils ont invité leur famille, leurs amis. Il y a des élus, il y a la presse qui va venir. Donc, au Train
Théâtre. Là, elle va être jouée là, dans ce que vous disiez tout à l'heure.
On va en fait entendre les fictions.
D'accord.
On va aussi visionner les trois films qui ont été réalisés parce qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a aussi une partie. Il y a trois films réalisés où les enfants. On ne l'a pas dit non plus, mais à chaque fois, ils touchent aux appareils. C'est-à-dire que quand on tournait des scènes, ils ont à chaque fois pris la perche, pris l'enregistreur à trois. On tournait un peu pour qu'ils aient aussi cette sensation. La prise de son. Déjà, rien que quand on a le casque et qu'on suit ses copains en train de faire un truc, on voit tout de suite que le son, ce que ça donne. Et donc ça, ils l'ont tous fait à tour de rôle. Et puis, il y en a qui ont filmé aussi avec d'autres prestataires qui sont intervenus. Et donc, il y a trois films qui ont été réalisés qu'on va voir ce soir, auxquels les enfants ont participé. Et puis, voilà. Et puis, ils vont monter sur scène et puis ils vont nous dire, ce qu'ils en ont pensé.
Raphaël, allez-y.
C'est important pour nous qu'il y ait ces films aussi.
Oui.
En fait, il y a la dimension, on va dire, artistique, créative avec la fiction. Mais avec Radio Méga, on aime bien faire de l'éducation aussi aux médias. Voilà. Et le fait de rajouter des films derrière, leur apprendre le cadrage, comment on filme, le fait de tenir un blog, un carnet qui servait de carnet de bord. Voilà. Donc toutes les semaines, il y avait un article qui était posté avec les sons qui avaient été enregistrés. Une des photos qui avaient été faites. Donc ça permettait aussi d'aborder l'écriture, la photographie, la vidéo et le son. Et on avait différents médias. Et on va dire que le fait de réaliser en plus une émission avec des interviews, on va au bout de la démarche média. En fait,
c'est ça.
On s'était fixé aussi dans le projet. Donc, il est double, en fait. Il est à double entrée, le projet.
Et ça, je trouve vraiment fantastique de pouvoir proposer toute cette gamme, en tout cas, d'approche et de travail. On évoquait aussi que c'était possible, peut-être on peut l'évoquer là maintenant aussi, les partenariats, parce que bon, il y a le Train Théâtre, effectivement, qui accueille ici, Quai de Seine, on évoquait tout à l'heure,
Julien, lui, ne travaille pas à la radio, donc il a sa société Résonance Média qui fait de l'éducation aussi aux médias. Voilà. Ingrid est donc pour la compagnie Vianova et comédienne. Moi, pour Radio Méga. Donc déjà, on a réussi à fédérer trois structures qui sont différentes. Dessus sont venus se rajouter des vidéastes qui, depuis déjà très longtemps, travaillaient avec des enfants pour faire de l'éducation comme ça à la vidéo. Et puis après, on a eu des partenaires, on va dire plutôt des aides techniques comme Quai de Seine, qui nous a mis à disposition son lieu pendant une semaine. Parce qu'il fallait qu'on ait un lieu accessible, il fallait qu'on puisse... Et on a la dimension culturelle qui est forte aussi dans le projet. Donc pour nous, c'était pas intéressant d'aller dans une salle des fêtes. On voulait aller dans un lieu de culture. Et donc, Quai de Seine, c'est un théâtre. Donc on va au théâtre. Et c'est aussi pour ça qu'on fait la représentation ce soir au Train Théâtre. On n'est pas allé dans la salle du village. Voilà, on est allé ici parce que c'est un lieu qui reçoit des artistes, qui reçoit des créations toute l'année. et donc qui est d'autant plus valorisable,
qui valorise
complètement le travail qui est fait par les jeunes. Donc le train et Quai de Seine nous ont bien aidés. Et puis après, on a des partenaires financiers. On va pas se mentir, il y a le CESAD qui a quand même un petit peu participé.
J'imagine que bien sûr, le CESAD a dû être un partenaire, bien évidemment.
Et après, on a surtout le fonds de dotation Impact, c'est l'initiative pour le partage culturel.
C'est qui dépend du ministère de la Culture.
Non, fonds de dotation, c'est privé. C'est vraiment un fonds de dotation, mais qui a aimé notre démarche et qui est notre plus gros financeur sur l'action. Quasiment les deux tiers, c'est eux qui financent.
Oui. Donc ça, c'est important.
Il y a la DRAC. Rhône-Alpes, la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes, qui nous subventionne aussi pas mal. Voilà, le CESAD, et puis Radio Méga est aussi, prend une partie à sa charge,
aussi.
Du projet.
Oui, donc là, on voit aussi toute la fédération d'énergie, de partenaires, et ça, c'est rassurant. Enfin, on expliquait tout à l'heure, on essayait d'évoquer justement l'enjeu de cette fiction, de la création radiophonique.
Oui, c'est rassurant, parce que ça montre aussi que ce qu'on fait, ça intéresse.
Voilà, c'est ça.
Ça nous encourage à continuer.
Je pense qu'au niveau du CESAD, on évoquait vos points de vue à vous, mais je pense qu'au niveau d'une direction ou de pouvoir aussi faire qu'il y ait une implication de cet ordre-là dans un projet comme celui-ci, ça aussi, c'est important. Valérie Trichet.
Alors, on n'est pas la direction.
Bien sûr.
Mais je pense qu'ils ont été aussi très contents déjà de nous faire part de ce projet parce que Radio Méga a en premier lieu contacté notre direction qui nous a tout de suite fait part, de demander si on était partie prenante. Donc, à leur équipe, ils l'ont proposé, on a tous accepté. C'est vrai qu'ils nous ont dégagé aussi du temps de travail.
Voilà, j'imagine, en termes de présence.
En termes de présence, on a été quand même là un certain nombre d'heures. Si c'est en termes matériels qu'on parle, c'est quand même un certain nombre d'heures à plusieurs personnes. Parce que là, aujourd'hui, Joël et moi sommes là, mais il y avait d'autres personnes qui étaient présentes sur les mercredis et sur la semaine des vacances de Toussaint. Donc c'est vrai que c'était aussi... forcément, le CESAD s'est engagé et avait été partie prenante de ce projet qui était nouveau. C'est vrai qu'on est toujours intéressé par faire des choses nouvelles et proposer à ces enfants des choses qui ne sont pas communes. Et puis, ils ont beau avoir toutes ces difficultés, ils font des choses que d'autres enfants ordinaires ne font pas. Et pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on aime.
Voilà, ça, je crois que c'est important. Et puis du coup, ça replace aussi, étant dans un média comme Radio Méga, une proposition comme celle-ci, d'être dans un lieu comme celle-ci, du coup, ça place dans l'espace commun. C'est-à-dire
chacun a sa place. Voilà, ouais,
ça, je crois que c'est ce que permet aussi les pratiques artistiques. Mmh. Et on en comprend tout l'enjeu militant, je dirais aussi, de Radio Méga derrière, ou des autres partenaires artistiques, de faire aussi que peut-être que les pratiques artistiques permettent ça. C'est-à-dire que du coup, redistribuant les rôles, les potentialités, ces enfants peuvent trouver leur place très justement aussi dans ce cadre-là.
Bah c'est vrai que ça fait partie des missions du CESAD, c'est vrai que d'intégrer nos enfants, de les inclure et de faire le maximum de choses qu'on peut tous faire. Alors c'est vrai que là c'est plus culturel, mais on peut avoir les mêmes choses au niveau de l'éducation, au niveau du sport, au niveau de toutes sortes de choses.
Là, il y a un enjeu fort, Raphaël Terribilé, je dirais, à ce niveau-là, de faire le lien. Et en plus de donner la parole, parce qu'il y a l'action, mais là, par le média, c'est aussi contribuer quelque part à faire que cette parole de ces enfants, au travers de cette histoire, elle existe dans un espace public où on ne leur donne pas forcément toujours aussi cette place dans l'espace public.
Elle a autant de place que la parole d'un autre enfant, c'est-à-dire qu'elle est exactement au même niveau.
Au même niveau, ouais, absolument. Voilà. Et ça me semble fondamental, effectivement.
Il n'y a pas de différence.
Absolument. Voilà, on s'achemine petit à petit au terme de cette émission. Merci en tout cas. J'espère que en tout cas nos auditeurs ont pu comme ça cheminer, appréhender les coulisses un peu de ce que peut être une émission radiophonique. On aura l'occasion dans nos prochaines émissions de les découvrir dans leur totalité. Mais vous vouliez rajouter quelque chose? Tout à fait, Joël.
Donc je voulais juste remercier en direct tous nos jeunes qui ont participé, mais je voulais aussi remercier leurs familles qui nous ont confié leurs enfants pendant, comme l'a dit Valérie, un bon nombre d'heures. Et remercier chaleureusement leurs familles.
Et ça, je crois que c'est important. Dans le partenariat, là aussi, tout le lien, parler des équipes, des partenaires culturels, mais là aussi, le lien familial, faciliter les choses et les accompagner aussi dans cette phase de projet aussi est importante.
Oui, parce que ça a été Il y a eu combien de mercredis
Il y a eu 5 mercredis.
Il y a eu 5 mercredis.
3 heures à chaque fois quasiment.
Ouais. Voilà, plus toute la première semaine des vacances de la Toussaint.
Donc c'est une grosse mobilisation.
Une grosse mobilisation, oui.
Et puis il y en a qui n'habitaient pas à côté, donc il y avait la gestion des taxis, il y avait les transports.
Et là, l'adhésion des parents était immédiate, je dirais, par rapport au projet ?
Oui, quasiment. Je crois qu'au début, même nous, la fiction radiophonique, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça n'a pas été simple de l'expliquer, de le présenter. Et heureusement, Raphaël était venu nous expliquer, nous faire écouter des petits extraits. Et ça a été plus facile après de se dire « Ah oui, ça a l'air super intéressant, on y va ».
Donc Raphaël, c'est ce soir la présentation. On est donc ce 9 décembre au Train Théâtre. À quelle heure ?
À 19h.
À 19h. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de pouvoir, pour ceux et celles qui le souhaiteraient, bien sûr, se rendre sur le site de Radio Méga pour découvrir aussi ces fictions.
Pour découvrir. Puis il y a un site même direct qui permet d'aller... sur le projet, c'est fiction.radio-mega.com. Et dès ce soir, 18h30, les fictions seront en ligne, mais je ne leur avais pas dit parce que je ne voulais pas qu'ils les écoutent avant.
Voilà. Très bien. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission spéciale de résonance au Train Théâtre à Porte-les-Valences. Merci une nouvelle fois à Luc Sotira et à toute son équipe du Train Théâtre de nous avoir permis de réaliser cette émission ici. Merci aussi à vous tous, les jeunes aussi. Et merci encore pour votre témoignage et à vous tous aussi également. J'étais accompagné aujourd'hui par Nicolas Galliot à la technique et Simon Deborne pour la mise en onde. Cette émission de résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de Résonance Contemporaine www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.